Divergence numérique, 17e émission. Bonsoir à tous et à toutes qui nous écoutez en RTIEN autour de Montpellier ou via Internet selon les différentes possibilités qui vous sont offertes. Le flux Hog Vorbis ou Peercast ou encore même Shootcast en MP3. Comme quoi on est super éclectique sur Divergence. C'est Gilles Gouget qui vous cause dans le micro. C'est Caroline Novara qui officie à la technique. Et puis autour de moi, eh bien Jean-Claude Stigler, Albert Bruck et Anthony Morel sont avec moi. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Dimitri va nous rejoindre en cours d'émission car eh bien il est encore peut-être dans le train à l'heure qu'il est. Et puis un sommaire super rempli comme ça devient fréquemment l'habitude. Après les nouvelles du front dans lesquelles eh bien on parlera évidemment des brevets logiciels mais aussi de quelques nouvelles inédites et croustillantes et du jour, même de cet après-midi, même de cette fin d'après-midi. On aura aussi une petite interview de Christophe Espern pour parler de l'EUCD, interview réalisée par Dimitri lors de Solutions Linux. Et puis ensuite on aura de la musique, on aura aussi, on recevra les gens qui nous diffusent sur la toile. J'ai nommé Gizmo 34 et puis quelqu'un de chez oye.info qui nous téléphonera. On aura aussi Julien Delange en cours d'émission qui nous parlera de la nouvelle équipe de Tux Family. On aura aussi une nouvelle chronique, la chronique livresque proposée par Albert. Il vous parlera de deux ouvrages à se procurer absolument, évidemment. Et puis on aura aussi Ptilu au téléphone pour parler de creatixnet.com qui a la gentillesse d'héberger notre serveur IRC, suite à quoi eh bien, on fera un retour avec Dimitri sur Solutions Linux qui s'est tenu il y a quelques semaines à Paris. Il a notamment interviewé Sophie Gauthier d'OpenOffice et Rodolphe Kideville de Galette Verte. On en saura plus donc aux alentours de 19h40, tant pis pour la rediff. Et puis peut-être aurons-nous Frédéric Rénal pour sa chronique sécurité, mais rien n'est moins sûr car il était super overbooké. Et on terminera évidemment cette émission par l'agenda du libre. Pour l'heure, eh bien c'est les nouvelles du front. Les nouvelles du front, vous pouvez aussi éventuellement téléphoner au 04 67 66 33 33 pour essayer d'avoir la ligne. Mais vu les nombreuses interviews téléphoniques que nous aurons dans le courant de l'émission, ça sera peut-être un petit peu occupé. Je vais me tourner vers Jean-Claude pour avoir un petit peu les nouvelles du front. Je crois que ça brûle du côté des brevets.
Ah, ça bouge beaucoup et la partie de bras de fer qui oppose la Commission européenne au Parlement européen continue, et cette fois-ci, je crois que c'est vraiment à l'avantage du Parlement européen. La Commission avait prévu de remettre encore une fois à l'ordre du jour de une réunion des ministres de l'économie et des finances de l'Europe la directive comme point A, c'est-à-dire pour être votée sans discussion. En fait, ils l'ont même pas abordé, puisque la veille, les présidents des groupes parlementaires au Parlement européen, tous les présidents de groupe, y compris le PPE, qui est jusqu'à présent avait une attitude un peu ambiguë, voire était pour, ont tous soutenu la nouvelle discussion en première lecture par le Parlement européen de la directive sur les brevets. Ce qui veut dire que si ça se passe, et il semble que ça va se passer comme ça, probablement, on va repartir d'un pied tout neuf dans le débat au Parlement, ce qui me paraît une excellente chose étant donné les modifications politiques, enfin d'opinion, des différents gouvernements en Europe sur cette question, qui change dans le bon sens de jour en jour. Oui, Albert.
Ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que la France, le gouvernement français n'a encore quand même rien dit. Il ne s'est pas positionné ni d'un côté ni de l'autre. Et que là, franchement, ça commence à devenir un peu...
Oui, d'ailleurs, il faut noter que c'est pas le seul gouvernement qui n'ait rien dit. Il y en a d'autres dont les parlementaires ou les sénateurs ont réclamé de leur gouvernement une position claire et nette contre les brevets et qui ne se sont toujours pas prononcés. Mais je crois que la partie de bras de fer qui oppose le Parlement à la Commission européenne est en train de sortir du cadre des logiciels et des brevets logiciels pour atteindre tout l'horizon politique et entache, si jamais la procédure de, si la commission voulait insister sur ce sujet, elle en a le droit, statutairement. Elle peut très bien dire encore, par-dessus cette conférence des présidents, non, on veut voter cette directive dans l'État. Ils en ont encore le droit. Maintenant, s'ils font ça, c'est clair que ça commence à sortir du cadre restreint des défenseurs, de la liberté, d'un certain point de vue, hein, de création en matière de logiciels, pour aller du côté des partis politiques et des opinions publiques et être ramené dans un débat général sur la démocratie européenne. Mmh. Ça apparaît de plus en plus comme un déni de démocratie. Nous le disions, nous, déjà, il y a plus d'un an, que c'était un déni de démocratie. Maintenant, ça me fait plaisir de voir que régulièrement, ces mots, déni de démocratie, est écrit en toutes lettres dans plusieurs publications. Mmh.
D'autant que justement la question des brevets n'est que la face visible d'un iceberg qui concerne même au-delà du monde informatique, qui concerne aussi le libre en général, que ça soit les licences, que ça soit en fait ça touche à tout ce qui a trait au droit de la propriété intellectuelle et au partage de la connaissance, parce que nos politiques quand ça les arrange sont les premiers à sortir les grands mots comme société de la connaissance, etc. Sauf que qui dit société de la connaissance dit aussi partage, et le partage c'est aussi un mot qui est utilisé dans le partage de fichiers, par exemple.
Exactement.
Vous avez peut-être tous vu une campagne d'affichage 4x3 qui dit, initiée évidemment par les majors, qui dit « Oh non, les pauvres musiciens, ils perdent de l'argent à cause de l'échange de fichiers sur Internet ». Il faut savoir qu'il y a une étude qui est sortie aux États-Unis récemment et qui dit que pour l'année 2004, les musiciens américains ont vu leurs revenus augmenter, et la proportion de ces revenus en ce qui concerne la vente de disques, c'est super congru. Donc il faut bien comprendre que les musiciens ne gagnent pas leur vie en vendant des disques, loin de là. Ils gagnent surtout leur vie en touchant des droits de diffusion et en faisant de la musique. Oui, Albert.
Oui, ce qu'on peut annoncer aussi, c'est la nouvelle du jour, c'est quand même Mandraksoft qui a racheté Connectiva. Connectiva, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est une distribution brésilienne, qui est d'ailleurs la première distribution au Brésil et dans l'Amérique du Sud. C'est notamment, pour ceux qui connaissent un peu le monde Debian et son environnement graphique, le créateur de Synaptic. Synaptic, c'est un logiciel qui permet d'installer donc les logiciels Debian, etc., sur son ordinateur, tout ça graphiquement, donc très simplement avec des explicatifs et tout ça. Donc c'est vraiment une distribution Connectiva qui était déjà très 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 bonne, et des développeurs, des gens qui créaient cette distribution qui étaient vraiment déjà très bons et très reconnus au niveau mondial, qui rejoignent l'équipe de Mandrake. Ça fait environ une soixantaine de personnes qui développent, qui sont vraiment des furieux, on va dire.
Des cadors,
exactement. Mandraksoft va de ce fait devenir l'une des, si ce n'est pas la première distribution mondiale, devant Red Hat. Ce qui est Red Hat étant la première distribution mondiale jusqu'à présent, mais là je crois qu'avec le rachat de Connectiva, les choses risquent de changer, donc à suivre.
Oui, et puis je crois qu'il faut aussi dire, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant, qu'au Brésil, le gouvernement brésilien a pris des options très claires en matière de logiciels libres, et que Connectiva est distribué à des centaines de milliers d'exemplaires, installé à des centaines de milliers d'exemplaires sur des ordinateurs avec des milliers de serveurs, tout ça dans les structures de l'État brésilien, que par ailleurs Connectiva a développé énormément d'outils pour les entreprises de gestion interne, de RP, enfin d'un certain nombre de logiciels qui permettent aux grandes entreprises de fonctionner, dont les grandes entreprises ont vraiment un besoin impératif, et que Mandraksoft va bénéficier de cet apport technologique, et évidemment ça va rejaillir sur la distribution de Mandrake. Alors maintenant, comment ça va se passer dans les faits, on verra quoi.
Alors même si ces nouvelles ont l'air plutôt bonnes, il faut pas quand même oublier que la bataille continue, la bataille fait rage. On n'est pas à l'abri d'un retour, parce que les promoteurs du brevet logiciel en Europe sont quand même ne manquent pas de moyens, ne manquent pas de ressources, ne manquent pas d'argent, ne manquent pas de force et de personnel pour faire du lobbying auprès de l'Europe. Donc surtout en ces temps où le référendum pour le traité pour établissant une constitution européenne approche, et là aussi on peut aussi dénoncer pas mal de risques, de dangers et de menaces. On va peut-être dire un mot à propos d'interopérabilité.
Oui, parce que il existe un organisme qui s'appelle l'OASIS, qui est un organisme mondial qui est chargé de veiller à ce que les formats de documents qui circulent d'un État à un autre, par exemple, ou d'une administration à une autre, se fassent dans des formats ouverts. Or, jusqu'à présent, il n'était pas question, lorsqu'on parlait de formats ouverts, d'associer quelconque brevet ou licence à ces formats. Ce qui semble aller de soi, puisque si on accepte un brevet sur un format ouvert, ça veut dire que, du coup, vous êtes dépendant de royalties versées à un organisme qui peut changer d'ailleurs ses options quand il le veut à propos de l'utilisation de ses brevets. C'est plus un format ouvert. Il est connu, mais il est plus ouvert au sens large du terme. Et donc, l'OASIS, cette organisation, a envisagé très sérieusement, d'autoriser les brevets sur les formats ouverts à partir du 15 avril. Alors, je suis pas sûr qu'ils arrivent à le faire, et j'espère bien que non d'ailleurs. Ils avaient déjà même fait le même type d'opération au sein du W3C, qui est l'organisme qui régule le web et les éléments techniques du web, comment on échange des documents, comment on fait en sorte qu'ils soient compatibles les uns avec les autres. Et ça n'avait pas réussi à passer. Donc je souhaite sincèrement que les gens à l'intérieur de l'OASIS, responsables, vont se battre pour que ça n'arrive pas.
Albert, un mot ?
Ce qu'on peut rajouter, oui, c'est ce qui s'est passé au Parlement français et qui a été assez comique, on pourrait dire. Il y a eu une réunion donc entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour parler justement des brevets logiciels et de l'informatique libre, à laquelle étaient conviés des participants de la FFI, de Microsoft et donc des politiques. Et on peut dire que la discussion a été assez houleuse. Je crois que Jean-Claude l'a plus suivi que moi et pourra plus vous en parler, mais ça vaut le détour.
Ah oui, là, moi je pense que c'était une excellente réunion. Les représentants de Microsoft se sont fait chahuter très poliment, mais chahuter sérieusement.
Quand même,
oui. Parce qu'on les a poussés dans leur dernier retranchement sur les questions de propriété intellectuelle et de propriété matérielle, de biens matériels et de biens immatériels, pour leur faire avouer qu'en fin de compte, pour eux, le bien immatériel n'existe pas et que donc, à partir de là, c'est normal qu'on fasse des brevets là-dessus, puisque c'est pas du bien immatériel, un logiciel. Or là, il y avait suffisamment de beau monde dans la salle, entre Bernard Lang, entre Gérald Cédrati et Dinet, pardon, j'écorche toujours son nom, et puis quelques autres qui étaient dans la salle et qui ont bien malmené les gens de Microsoft.
Alors, il faut se tenir au courant, évidemment, sur ffii.fr.
Oui, et je voudrais préciser quand même que cette réunion était donc au Parlement. Il y avait que des parlementaires qui étaient dans la salle. Beaucoup de gens parmi ces parlementaires étaient un peu au courant de ces questions et sont repartis un peu ébranlés de voir la position de Microsoft.
Et ce qu'on peut ajouter en dernière ligne, c'est que pour finir, on a parlé, les gens de la FFI ont demandé les brevets. Alors le problème, c'est quand même qu'ils sont aux trois quarts possédés par les Américains et le Japon. Et la réponse de Microsoft, de la représentante de Microsoft France a dit « Oui, mais ça, c'est pas le problème ». Chose qui n'a pas du tout plu aux parlementaires.
Non seulement elle a dit « Ce n'est pas le problème », mais elle a également insisté sur le fait que c'était normal puisque l'innovation venait des États-Unis. Ce qui est absolument faux. Je veux dire, c'est une contre-vérité de dire une chose pareille.
C'est clair. On va écouter une petite interview qu'a accordé Christophe Espern à Dimitri lors de Solutions Linux. Christophe Espern, c'est EUCD.info. EUCD, c'est une directive européenne qui vise à supprimer le droit à la copie privée. Il faut savoir que tout est copie dans l'informatique, donc si on empêche la copie privée, on peut même plus se servir d'un ordinateur. Et puis les dernières nouvelles donc de EUCD.info.
Bonjour Christophe Espern, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de l'EUCD et de notamment du collectif UCD.info, des dernières actions, de l'actualité prochaine ?
Eh bien, les nouvelles de l'EUCD, c'est que le gouvernement a annoncé qu'il allait transposer rapidement la directive. Ça fait quand même 2 ans en fait qu'on attend la transposition, mais elle venait pas, et il est prêt à la faire passer en procédure d'urgence, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat public sur ce sujet-là. Le problème, c'est qu'il n'a aucune réponse aux questions que nous, on a posées depuis 2 ans sur l'interopérabilité, sur les logiciels libres, sur les problématiques de libre concurrence, de respect de la vie privée, etc. Et on ne sait pas trop où ça va aller. Alors nous, on prépare des amendements qu'on va présenter aux rapporteurs parlementaires et qui ont pour objectif de protéger tous ces éléments-là, vie privée, sécurité informatique, libre concurrence et les droits du public, le droit de copie privée, le droit de lire un DVD avec un logiciel libre, enfin des droits qui sont un peu plus simples.
Finalement, j'ai l'impression que c'est un peu le même problème qu'avec les brevets, que ça traîne en longueur, il y a des tentatives de faire passer une loi en douce, mais finalement le temps risque de jouer en la faveur des défenseurs de la liberté.
Effectivement, ça traîne en longueur et c'est un peu le même problème que les brevets, dans la mesure où là c'est la Commission européenne qui presse le gouvernement français de transposer. La Commission n'a pas plus de réponse que le gouvernement aux problématiques que pose donc la protection juridique des mesures techniques de protection dans le texte, c'est comme ça que ça se dit. Et il y a effectivement un lobbying extrêmement fort des industries culturelles, des industries de l'électronique grand public, des industries de l'informatique et bien entendu de nos amis du BSA, donc Business Software Alliance, Microsoft, qui voient un intérêt direct à ce que leur format de fichier, leur logiciel soit imposé au public et que ce coup-là, ils puissent plus s'en défaire et que la Commission n'ait rien à dire, puisque la Commission les a condamnés pour abus de position dominante. Et là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'entériner ces positions dominantes en fermant les yeux sur le fait que ça pose des problèmes stratégiques, quoi. Alors, est-ce que ça va passer? Est-ce que le gouvernement va comprendre que il est dans une situation un petit peu intenable, tiraillé entre d'une part les intérêts des industriels du disque et le public, et puis aussi les sociétés de gestion collective, parce qu'il ne faut pas oublier que la SACEM, par exemple, ou la SACD ou la DAMI, qui sont des sociétés qui gèrent les droits des artistes, récupèrent des sommes conséquentes, environ 150 millions d'euros cette année, 200 millions l'année prochaine, grâce à la redevance copie privée. Le consommateur, lui, devrait payer.
Merci Christophe.
Et c'est pas tous les jours qu'on pourra écouter les Beastie Boys dans Divergence Numérique, extrait de la compilation Wired du magazine du même nom. Un magazine désormais célèbre pour avoir organisé la sortie d'une compilation qui réunit quand même des grands noms comme David Byrne ou Gilberto Gil ou Le Tigre ou pas mal d'autres groupes ou encore les Zap Mama. Une compilation qui est sortie il y a pas très longtemps et qui inaugure en quelque sorte une nouvelle licence de Creative Commons qui s'appelle la licence Sampling et Sampling Plus. Plus d'informations évidemment sur creativecommons.org. À présent, nous avons Philippe Mironov en ligne, si je ne m'abuse. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ben, on est ravis. Tu t'occupes du site oye.info, oui. Un site, je crois, qui est né d'une volonté citoyenne.
Oui, en fait, avec l'association Attaque locale, on avait besoin d'un site information, en fait, sur les événements locaux, quoi. Et on a décidé de créer ça. Bon, le site n'a pas trop marché, faute de rédacteur. C'est vrai que c'est dur de faire passer tout le monde derrière un écran et publier des articles sur SPIP. Donc, pour l'instant, c'est un peu dans les vapes. Voilà.
Ça prend un certain temps. Moi, je peux témoigner du fait que, à Divergence, SPIP, c'est en place depuis la saison dernière. La saison dernière, on avait deux ou trois rédacteurs à part moi. Et puis cette année, je crois qu'on en a, on va dire, une petite dizaine, alors qu'on a quand même 40 émissions réalisées par des bénévoles. Mais c'est pas évident non plus de demander à des bénévoles de passer du temps, effectivement, à faire du texte.
C'est clair. Surtout que c'est souvent des gens qui sont plus très jeunes et qui ont du mal avec les nouvelles technologies, l'informatique en particulier. Certains ne sont même pas équipés d'internet ou même d'ordinateur. Donc pour ce site-là, ça va être difficile. Bon, j'ai eu un monsieur de l'April qui a proposé de faire une sorte d'indie média mais en vidéo. Donc on va voir ce que ça donne et peut-être que Oye.info diffusera des informations alternatives en vidéo.
Ça serait une très bonne nouvelle.
Ce serait intéressant.
Bonjour Philippe, c'est Albert.
Bonjour Albert.
En fait, ça fait super plaisir de t'avoir parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que Oye est partenaire d'entremise, diffuse Divergence FM en Ogvorbis, et ça depuis déjà quelques temps.
Quelques mois déjà, oui.
Quelques mois et à une qualité vraiment, vraiment, vraiment excellente qui est de 128 kilos. Bon, c'est
les jambes. Le mérite en revient au VH qui distribue des serveurs pour aider le libre.
Et c'est vrai qu'on en profite aussi et tu nous as permis d'utiliser un peu de ta bande passante et on t'en remercie. On voulait déjà t'appeler pour ça. Et t'avoir, c'est que déjà une bonne chose, et que les gens connaissent aussi Oye. Puis je crois que tu as aussi d'autres sites sur le logiciel libre, dont un qui s'appelle FreeContrib.
Oui, donc on a FreeContrib.org, et en fait une sorte de plateforme où j'essaie d'héberger des projets libres que j'aime bien, et qui essaie de développer des projets libres. On a par exemple deux projets qui s'appellent Norin et Nakuki, qui sont un des outils de création de distribution et une distribution de démos. Mais bon, ça, peut-être qu'on en parlera une prochaine fois.
On en parlera.
Absolument, voilà. On en parlera. On peut renvoyer les gens à oye.info, ouais. S'ils veulent mettre leur talent de rédacteur au service de ce site.
Ah, ce serait très bienvenu.
Voilà, tout à fait. On te remercie et puis on se dit à très bientôt pour parler de ces autres.
Et
de Norian, ouais, tout à fait.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, et puis on attend aussi la visite ou le coup de téléphone de Gizmo 34. Alors peut-être qu'on peut dire un petit mot brièvement pourquoi avons-nous voulu être présents sur Shoutcast. Shoutcast en fait qui est une émanation de Winamp, un lecteur multimédia fort connu des utilisateurs de Windows, hein, mais pas que de Windows. Et Shoutcast en fait est présent, a signé sans doute des accords commerciaux avec certains constructeurs de lecteurs DVD de salon équipés de ports Ethernet, puisque c'est de plus en plus le cas. Hein. On voit que le hardware des ordinateurs se déménage de l'intérieur des tours des PC pour rentrer dans les lecteurs de salon, pour devenir qui un magnétoscope, qui un lecteur, etc. Et donc, c'est tout simplement pour nous, pour avoir plus de visibilité, quand bien même Shoutcast utilise le format MP3 qui n'est pas libre.
Oui, déjà, c'est vrai que c'est pas libre, c'est assez clair. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on n'utilise pas Shoutcast pour envoyer le flux. On reste quand même qu'avec des logiciels libres.
Oui.
On utilise un logiciel qui s'appelle Darkice et qui permet de faire du flux soit Ogg ou soit du flux Shoutcast. Et donc voilà, on reste quand même à Divergence FM 100% libre. malgré tout.
Il faut le souligner. On peut peut-être aussi dire un petit mot du développement de l'informatique ici à Divergence. On est en passe de terminer entre guillemets. On a quand même pas mal avancé. Et puis on peut aussi saluer de très loin, de quelques 800 kilomètres, les gens de Radio 404 qui desquels nous allons utiliser une partie du travail.
Tout à fait. Nous allons utiliser la MediaBox 404, qui est un logiciel qui a été développé par l'association et la radio Réseau 404. C'est vrai qu'on va un peu le détourner de son utilisation première, parce que il est prévu pour lui pour fonctionner simplement en système de web radio. Nous, on va le transformer en système de radio web et en même temps hertzien, pour pouvoir en profiter de toutes ses avantages. Et c'est vrai que grâce à nos amis de Réseau 404, on a ce système-là avec nous, ce qu'on a fait derrière, et ça va être maintenant vraiment pour les gens de la radio, plus que pour nous qui nous avons aidé à faire ça avec Anthony, parce qu'il faut bien le dire, Anthony a mis sacrément la main à la pâte.
C'est vrai, hein.
Avec moi sur ce chantier, il faut le dire. Et donc voilà, c'est une question de maintenant de jours, peut-être d'heures d'ailleurs, on ne sait pas, mais en tout cas, la radio toute numérique et tout en logiciel libre à Divergence, c'est d'actualité. Et déjà, même on diffuse le flux d'une manière un peu sauvage, le soir, la nuit, tout numérique.
Voilà. Je crois que nous avons peut-être un appel de Julien Delange. Il est en ligne. Alors, nous zappons un petit peu la musique. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Julien Delange est donc en ligne pour nous parler de la nouvelle équipe de Tux Family. Tux Family, qui est un hébergeur de projets libres, qui avait hébergé le site de Divergence à ses débuts sous SPIP. Allô, Julien?
Oui, effectivement. En fait, moi, je me rappelle pas du tout de tout ça parce que je suis arrivé dans l'équipe en dernier. Et donc après, juste après le crash, j'ai repris un peu les choses en main. Et puis on a formé une bonne équipe. Et puis on a commencé à s'atteler à la tâche et ça a été un peu compliqué. Et finalement, au bout d'un an, on a réouvert. C'est ça qui est plutôt bien, on va dire.
C'est plutôt une excellente nouvelle. Le crash, pour que tout le monde comprenne, en fait, vous aviez été attaqué par des malveillants, Tux Family, c'est ça?
Oui, c'est ça en fait. Il y a eu plusieurs vagues d'attaques et la dernière donc a été, on va dire assez conséquente. Donc c'était assez. Enfin, les administrateurs n'ont pas voulu maintenir la plateforme et il faut dire que la plateforme n'avait pas évolué depuis assez longtemps et au-delà des problèmes techniques, c'était surtout des problèmes organisationnels et humains qui se posaient et on s'est vraiment attaqué à reformer, on va dire, toute l'association. Mais bon, c'est dire qu'il y avait vraiment des problèmes humains, c'est un euphémisme, on va dire. C'était vraiment conséquent qu'on a repris l'affaire, mais bon, de toute façon, c'est normal, les gens... évoluent et puis certains ont laissé leur place, donc bon, c'est normal.
Bonjour Julien, c'est Albert.
Albert.
Donc, Tux Family est ouvert déjà depuis, on va dire, quasiment un mois.
Ouais, à peu près. Oui, un mois, je crois qu'on a réouvert. En fait, la date était assez symbolique puisque on a décidé de réouvrir un an, juste un an pile poil. Quand l'hébergeur s'est fait pirater, donc on est revenu le 26, si mes souvenirs sont bons. Mmh.
Vous êtes revenu donc le 26 avec un nouveau système d'hébergement qui est beaucoup plus sécurisé que l'ancienne version, qui utilise les ACL, etc., tout ça pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que vous allez proposer comme nouveau service par rapport à ce qui existait avant?
Alors, c'est une grande question parce qu'en fait, déjà, on ne s'attendait pas à un tel succès. On s'attendait pas là en un mois on a aujourd'hui je regarde la page des stats 480 personnes qui se sont inscrites et on a déjà une petite centaine de sites web, donc c'est déjà un gros succès. Donc au niveau du développement même des nouveaux services, on a un peu pris de court et c'est vrai qu'on prend beaucoup de temps pour administrer la plateforme et pour le moment on s'est pas trop penché sur les nouveaux services. Néanmoins, là, va y avoir CVS qui va arriver les jours qui viennent. Normalement, ça devait arriver hier, mais la machine, malheureusement, est complètement crashée, donc on ne peut pas le relancer. On va essayer de le faire là avant la fin de la semaine. Il va y avoir les mailing lists, donc les listes qui vont bientôt apparaître. Il faut que je développe normalement le gestionnaire de liste. Après, il y a un nouveau projet donc qui est games.tuxfamily.org, qui est un centre de jeu. On est donc en ce moment en parler avec on parle avec Nick Aimé pour un partenariat au niveau des serveurs de jeu. Et il y a aussi le serveur Jabber et aussi une plateforme de blog. On y pense déjà un petit peu. Donc bon. Mais et derrière, il y aura aussi encore du développement de VHFS. Ça va. Je pense qu'on est sur la bonne voie là.
Il faut dire que avant l'arrêt de Tuxfamily il y a un an, il y avait environ 1000 et quelques sites qui étaient hébergés. Là, c'est vrai qu'arriver des gens à plus de 400 utilisateurs et 100 sites ouverts en un mois, c'est déjà énorme.
C'est effectivement un très très gros succès. Et là, c'est pas fini parce que on va avoir il y a un contributeur anonyme Black Coffee qui nous a traduit tout le panel. Donc là actuellement, on a tout le panel qui est internationalisable. Et internationalisé en espagnol et en français et en anglais.
Je te coupe, excuse-moi, pour dire que ce dont tu parles là, c'est l'application qui permet de gérer Tuxfamily, qui est VHFFS. VHFFS, voilà. C'est une application qui permet de gérer plusieurs serveurs sur une ou plusieurs machines. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise.
Non, c'est ça.
Et qu'en fait, là, maintenant, voilà, je te redonne la parole, vous l'avez internationalisé.
On l'a internationalisé, et encore plus que ça, puisque si vous regardez sur VHFS, il y a un système de thèmes. Alors déjà, il y a quelqu'un qui nous avait proposé de faire des thèmes totalement fantasy. Donc il y avait le thème flèche-linge, le thème camion poids lourd, qui était un petit peu, on va dire, enfin très très fantaisiste. On a fait des thèmes qui sont un peu plus conventionnels, donc il y a le thème Tuxfamily, le thème VHFS. Donc on va essayer de proposer après vraiment de paramétrer et de mettre un petit peu de fantasy dans les thèmes, et donc dans la présentation à l'utilisateur, on va essayer vraiment au maximum de faire des services qui vont plaire aux utilisateurs. Par exemple, je prends l'exemple de la plateforme de blog, on va essayer de faire quelque chose qui va s'intégrer complètement, par exemple, à certains bureaux comme Gnome, où la personne pourra très facilement voir ses news avec des fichiers XML. Enfin, on travaille sur la technologie, on y pense déjà. Donc on essaye au maximum de faire des services qui répondent aux attentes de l'utilisateur, comme CVS ou SVN. Typiquement CVS, là c'est quelque chose qui est très demandé, qui va arriver, mais SVN, c'est un service qui est fourni par très très peu d'hébergeurs. Donc on va vraiment s'atteler à le faire fonctionner. Malheureusement, la machine, enfin c'est une vieille machine qui s'appelle Guo, et elle est tombée en rade, et malheureusement on ne peut pas lancer le service.
Ce qu'on peut dire, c'est que donc si je suis quelqu'un qui a un projet, une idée de logiciel ou de site libre, je peux venir à l'adresse www.tuxfamily.org, m'inscrire pour essayer d'avoir un espace et de proposer un projet en fait.
Voilà, exactement. Alors justement, toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez un projet libre, et pas uniquement logiciel libre. Nous, on veut vraiment, on va dire vulgairement, ratisser large. Ce qu'on veut, c'est vraiment héberger des projets libres, n'importe quoi, tant que c'est libre. Donc que ce soit le site d'un lug, que ce soit même des photos artistiques. Là, on a eu quelques projets artistiques. Par exemple, quelqu'un qui prenait des photos d'Aztec. C'est un projet qui est en Creative Commons. Nous, on héberge, il n'y a aucun problème. Sincèrement, on veut vraiment qu'il y ait une ouverture du libre au niveau même certaines licences qui sont déclarées par certains comme non libres, comme la Creative Commons. On veut vraiment prendre ces projets-là en main. Il y a vraiment aucun problème. Donc toutes les personnes qui ont des projets libres peuvent venir. On supporte par exemple le PHP, ce que certains hébergeurs libres ne font pas. On essaye vraiment de faire des services pour que chacun puisse avoir sa place sur Tuxfamily. Au-delà de ça, par exemple, si vous avez aussi un projet, on héberge comme d'habitude vos domaines, vos mails, on a les bases MySQL, PostgreSQL, on a vraiment tous les outils pour que les projets puissent se développer.
Bah, écoute, en tout cas, on te remercie. Je pense qu'on aura l'occasion de te rappeler et de prendre des nouvelles de Tuxfamily et de ce qui se passe un peu dans le monde du libre.
Il n'y a aucun problème. Vous pouvez suivre l'avancement de Tuxfamily à travers aussi la FAQ. On a ouvert un wiki spécial où vous voyez par exemple les projets les plus populaires de Tuxfamily. N'hésitez pas à contribuer, venez adhérer à l'asso, prenez part à Tuxfamily. On essaye de faire quelque chose d'ouvert, quelque chose de bien. On est motivé. Si vous l'êtes aussi, bah, c'est parfait.
et la mayonnaise prendra. Julien Delange, on te remercie beaucoup. On te souhaite une très bonne fin de soirée ou de journée ou de matinée. Et puis à présent, on va écouter un petit peu de musique, mais un tout petit peu. Toujours extrait de la compilation Wired. C'est David Byrne, fondateur aussi du label Wakabop, qui a aussi un très très bon esprit et qui nous interprète My Fair Lady. Voilà, vous pourrez retrouver David Byrne et tous ses amis présents sur cette compilation du magazine Wired sur bien le site wired.com ou encore sur le site de Creative Commons où de plus amples informations sont données sur les licences sampling et sampling plus sous lesquelles sont déposées ces musiques. Le libre et l'informatique, ce n'est pas seulement les yeux rivés à un écran avec les yeux qui deviennent tout rougis et pleureurs, c'est aussi des livres avec du papier que l'on peut tenir entre ses petits doigts, caresser. Et dont on peut se reposer les yeux aussi plutôt que de regarder un écran. Et Albert nous propose aujourd'hui une sélection de 3 ouvrages.
Oui, en fait 2,5 on va dire. Le premier, on en a déjà parlé avec Dimitri, c'est La bataille du logiciel libre, écrit par Perline et Thierry Noisette. C'est vraiment un livre à offrir aux gens qui ne connaissent pas le libre, qui se posent des questions dessus, qui veulent vraiment savoir ce que c'est. Et vraiment, c'est un livre que je conseille à tout le monde, même ceux qui croient connaître ce qu'est le libre. Donc un bon livre pour les trolleurs et un bon livre pour ceux qui ne connaissent pas le livre.
J'ai ajouté une petite précision, bonsoir déjà. Ce livre n'est pas du tout technique, c'est-à-dire, en informatique, il y a beaucoup de livres techniques. Ce livre n'est pas du tout technique, il explique avec des mots clairs exactement ce qu'est le libre et tous les enjeux qu'il y a autour du libre. En plus, il ne coûte que 6,40€, donc c'est vraiment le livre à offrir à tous vos amis, à tout votre entourage. N'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup.
À votre responsable informatique aussi.
T'as donné le prix du cadeau là, c'est pas bon.
Donc c'était le premier livre. Après, on passe à Firefox. Dimitri me dira rien là-dessus, parce que Firefox, il connaît très bien. Firefox, c'est un navigateur Internet. C'est aujourd'hui le navigateur Internet qui a le plus de succès. C'est déjà un navigateur Internet qui n'a pas de trou de sécurité, ou peut-être un, mais vraiment, c'est limite. Et donc Firefox, c'est un petit bouquin qui est sorti aux éditions Erol, qui est préfacé par Tristan Itto. Tristan Itto, vous le connaissez, on l'a interviewé ici déjà, c'est le président de Mozilla Europe, donc c'est déjà quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et ce livre donc là, écrit par Thierry Trubax, va vous expliquer vraiment très simplement, avec des images, et pas qu'avec des images, mais avec des images et des tas d'explications vraiment très simples, comment utiliser vraiment à 100% Firefox. Alors moi, qui suis un utilisateur d'Internet depuis longtemps, je me suis dit, un livre sur Firefox, ouais, bon, d'accord. Mais quand on feuillette ce livre, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a des tas de petites astuces sur Firefox qu'on connaît pas et qui vraiment vous facilitent la vie. Vraiment extraordinaire, que ce soit au niveau des plugins, c'est des petits rajouts qu'on ajoute à Firefox, ou des moteurs de recherche, ou des solutions qui existent vraiment à Firefox qui peuvent s'y greffer. Tout ça très très bien expliqué. À savoir que Firefox est disponible sous Windows, Linux et Mac OS X. Donc vraiment un livre pas très cher non plus. Tu as cité le prix, donc je vais faire pareil. Firefox aux éditions Erol. Donc c'est un problème dans la collection informatique libre à la portée de tous, ne coûte vous coûtera qu'une quinzaine d'euros.
Oui, c'est la collection Accès Libre, donc qui est une collection chez Erol qui met en avant certains logiciels comme OpenOffice qui sont faciles d'accès pour tous. C'est une collection dirons-nous grand public
et d'initiation, oui.
Voilà. Mais de vulgarisation.
De vulgarisation qui apporte vraiment de très très bonnes infos, qui est vraiment un très bon livre à conseiller vraiment à tout le monde.
Je voudrais corriger un petit truc concernant Firefox. Tu as dit qu'il y avait très peu de trous de sécurité. C'est pas vrai. Firefox est tout aussi sujet aux trous de sécurité, aux bugs que n'importe quel autre logiciel. La différence avec le concurrent, citons Internet Explorer, c'est que quand une faille est découverte dans Firefox, elle est corrigée dans la journée. Quoi.
Voilà. Alors que sur Internet Explorer, pour ne le citer, il y en a encore 256 trous de sécurité, dont 8 critiques qui permettent à quelqu'un à distance de vous reformater la machine quand même, ne l'oublions pas. Alors que sur Firefox, je crois qu'il n'y en a quand même que 1 ou 2 ou 3 encore actuellement, mais c'est vrai qu'ils sont corrigés très très vite. Mais c'est vrai que dans tous les logiciels, du moment qu'on crée un logiciel, il y a des bugs, ça il faut le savoir, qu'on soit sous Windows, Linux, n'importe quoi, il y aura toujours des bugs dans ce logiciel. C'est humain, et l'humain est, comme on le sait tous, imparfait.
Voilà, bon. juste par rapport à ça, c'est la supériorité du libre, c'est justement que comme le code source des logiciels est disponible, l'information passe très vite, et puis les gens peuvent apporter des correctifs très très vite, sans avoir besoin de faire toute une OP commerciale pour sortir une nouvelle version.
Tout à fait. Et pour finir, je vais vous parler d'un livre dans l'école de la collection Aurélie, qui s'appelle Knopix à 200%. Alors ce livre-là s'adresse plus aux petits bidouilleurs et aux développeurs. Vous connaissez peut-être Knopix, c'est un live CD, c'est-à-dire un CD qu'on n'installe pas sur son disque dur, qu'on n'a qu'à mettre dans son lecteur donc de CD ou de DVD d'ailleurs, et lancé du moment que votre ordinateur peut démarrer sur un lecteur de CD. Et grâce à ce CD, vous allez pouvoir, et à ce livre, vous allez pouvoir découvrir comment fonctionne déjà d'une part cette distribution, et ce qui est vraiment très intéressant, comment en créer une, comment la modifier, et toutes les petites astuces qui vont permettre vraiment de personnaliser cette Knopix, d'en créer une. C'est vraiment un très bon bouquin pour ceux qui ont des besoins justement de créer des distributions live, à savoir qu'il vous explique comment les créer sur CD-ROM, mais aussi sur clé USB ou sur carte flash. C'est vraiment un très très bon livre, mais plus destiné aux bidouilleurs. À savoir que autant le livre de Firefox que celui-ci sont livrés chacun avec un CD. Voilà, je crois qu'on peut parler de ça. Peut-être que Dimitri, tu veux
dire le prix?
Oui, bah, ah oui, le prix, là, par contre, c'est déjà un peu plus cher. C'est 35 euros, donc, aux éditions Aurélie, pour pouvoir faire sa propre distribution, live ou pas live, et sous n'importe quel format. Et
on peut parler aussi de la forme du bouquin, donc il se présente sous la forme de poche, 100 trucs et astuces. En fait, c'est voilà. Des 100 cas pratiques
autour de
Gnomics.
Voilà, qui sont très bien expliqués, toujours très simples, plutôt destinés à des bidouilleurs, mais vraiment, si vous avez quelques connaissances en informatique, n'hésitez pas, vous verrez, c'est d'une simplicité terrifiante. Et tout le monde est capable, à la limite, de créer sa propre distribution live. Il faut seulement en avoir envie et le besoin.
Et le besoin, c'est Kyle Rankin qui signe cet ouvrage. En attendant un appel de Petit Luc qui va nous appeler pour parler de Createx.net, createxnet.com, autant pour moi, qui héberge notre serveur IRC. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs en vous connectant sur irc.divergence-fm.net, canal dièse divergence, ou encore en cliquant divergence FM, pardon, ou encore en cliquant directement sur notre site via l'interface web pour accéder à l'IRC et éventuellement nous envoyer quelques petites remarques pertinentes ou impertinentes, intéressantes ou inintéressantes. On va écouter un petit peu de musique avec Zap Mama qui figure aussi sur cette compilation qui aujourd'hui nous apporte sa musique. Zap Mama qui nous chante pour une fois en franglais What Did You Say?
1, 2, 3, 1. What do you say?
Zap Mama qui chantait What Did You Say, extrait de la compilation initiée par le magazine Wired. Vous pouvez retrouver et télécharger évidemment ces morceaux sured wired.com puisque il faut préciser une chose, c'est que sur le site des Creative Commons on trouve aussi les fichiers, mais bizarrement ils sont encodés à 111 kilos alors qu'on les trouve à 128 kilos sur le site de Wired. C'est une bizarrerie que je n'ai pas pu m'expliquer. À présent, eh bien, on va faire vu qu'on n'a pas petit lieu au téléphone.
Non, toujours pas.
On va enchaîner sur Solution Linux. C'était à Paris. C'était au tout début du mois.
Dimitri. Oui, effectivement. C'était donc, je crois, le 1er, 2 et 3 février à Paris La Défense. Comme chaque année depuis 7 ans maintenant, se tient le salon Solution Linux qui s'appelait avant Linux Expo. Donc c'est le rendez-vous en France professionnel dédié à Linux.
Voilà. S'il fallait comparer avec les rencontres mondiales et logiciels libres, la grande différence est ce côté professionnel.
Ah oui, effectivement, le Solution Linux, c'est avant tout un salon professionnel, même s'il y a une partie associative qui n'est apparu que depuis quelques années d'ailleurs, mais à l'origine c'était uniquement des entreprises. C'est un salon professionnel, tout ce qu'il y a de plus classique, où les entreprises viennent tenir un stand, montrer leurs produits. C'est entièrement commercial.
C'est un salon qui évolue d'année en année, qui grossit
oui et non. En fait, au début il était c'était gros, ça a diminué donc avec vers 2001, ça a pas mal diminué, notamment avec la chute de la nouvelle économie. Et là, depuis 2003, on va dire, ça a bien remonté, peut-être sur des bases plus solides. Et parallèlement à ça, il y a la partie associative qui a pris une ampleur, de plus en plus d'ampleur, au point d'être nécessaire à ce salon. Quoi. Je pense que ce salon n'aurait pas autant de succès s'il n'y avait pas le village des associations. C'est effectivement le village des associations qui draine le plus de monde. C'est là où il y a le plus de monde dans les allées. Peut-être parce que c'est des gens qui n'ont rien à vendre, seulement c'est l'âme du libre qui est représentée dans le village des associations.
Et peut-être que ceci explique cela. Dans les fondamentaux philosophiques du libre, il y a la possibilité de faire une activité commerciale ou de ne pas faire une activité commerciale, donc une vraie liberté de choix. Je crois que c'est ça aussi qui explique peut-être qu'il faut qu'il y ait une partie non commerciale, une partie associative, philanthrope ou appelons-la comme on veut, dans un salon sur le libre pour que ce salon ait toute sa cohérence.
Oui, effectivement, parce que de toute façon, le libre à la base est né d'une non commercial, même si le commercial est tout à fait possible, c'est né d'une activité associative d'un militant, et c'est normal que cette activité associative et militante soit représentée même dans un salon professionnel, surtout si l'activité professionnelle vient justement de ce militantisme.
Alors tu as rencontré Sophie Gauthier qui s'occupe de Open Office au niveau de la France, c'est ça?
Oui, au niveau, pas seulement la France, au niveau francophone. Donc elle est responsable, c'est elle la grande chef d'Open Office francophone.
Bonjour Sophie Gauthier, peux-tu te présenter pour commencer?
Bonjour, je suis la responsable du projet francophone openoffice.org et je siège également au Community Council d'openoffice.org.
En quoi ça consiste?
En quoi ça consiste? Ça consiste à organiser la communauté francophone, la faire réagir tant au niveau utilisation que développement. C'est gérer des projets de documentation, des projets également qui visent à ouvrir OpenOffice aux utilisateurs.
L'actualité est assez intéressante en ce moment d'OpenOffice, notamment avec cette annonce de la gendarmerie qui va migrer totalement vers OpenOffice.
Oui, tout à fait. Donc la gendarmerie, c'est intéressant parce que c'était des gens avec une réputation un petit peu stricte et sévère. Et c'est vrai que pour nous, ça va servir quand même de leitmotiv pour d'autres migrations, en tout cas conforter conforter les gens dans la sécurité que peut représenter OpenOffice.org. Et puis, bon, il y a d'autres nouvelles comme le ministère de l'équipement qui va également migrer 35 000 postes à peu près, et puis d'autres qui suivront ensuite.
Oui, donc cette annonce, je crois que ça fait bouger Microsoft, comme on pouvait s'y attendre. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Stéphane Kimmerlin quand il dit que les besoins de la gendarmerie étaient assez limités, se limitaient à WordPad, qu'en fait ils suggèrent qu'ils n'ont pas besoin de suite bureautique.
Ben, je trouve ça un peu léger, et puis à la limite, ils avaient qu'à fournir WordPad puisque ils en sont quand même les détenteurs. Donc si c'était suffisant, je pense que la gendarmerie aurait été capable de s'en apercevoir tout seul. Et que s'ils ont choisi OpenOffice, c'est justement pour des questions de sécurité, diversité, économie, voilà.
Et donc la migration vers OpenOffice, c'est en fait c'est une première étape pour la gendarmerie. J'ai cru comprendre qu'ils envisageaient de changer de système d'exploitation après. Est-ce que ça, c'est facilité par ce passage à OpenOffice ?
Oui, tout à fait. On peut penser que OpenOffice, de toute façon, ça ouvre une porte vers Linux. Ou même d'autres systèmes d'exploitation, et que ça permet une transition en douceur pour les utilisateurs qui changent pas d'environnement de travail, la brique bureautique étant la plus visible et puis celle par laquelle les utilisateurs accèdent à tout en fait.
Et sinon, on va parler de l'actualité peut-être un peu plus loin d'ici quelques mois. Une nouvelle version d'OpenOffice va sortir, la version 2.0. Alors qu'est-ce qu'il y aura de nouveau ?
Alors, la version 2.0, c'est sans doute pour mai. On essaye de faire en sorte, du mieux qu'on peut pour que ce soit mai. Les grands changements, c'est l'utilisation du standard Oasis pour le format de document, donc un format Open Document. Une base de données intégrée qui permettra l'échange de données en un seul fichier. Pas une usine à gaz, quelque chose pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'un système comme SAP, MySQL ou des choses donc un peu plus restreintes. Beaucoup d'améliorations dans les filtres d'export, import, WordPerfect, Lotus 1, 2, 3. Améliorations sur les filtres également Microsoft Office, reconnaissance des fonctionnalités, etc. Pour les programmeurs, pas mal de réalisation aussi dans le framework, dans l'accès aux barres d'outils, enfin voilà, pas mal de changements.
D'accord, pour en revenir un peu à cet aspect base de données, et pour comparer avec quelque chose qui est connu des utilisateurs de Microsoft Office, est-ce qu'on peut comparer ça avec Access qui manque à ce jour d'un équivalent dans OpenOffice ?
Alors ce ne sera pas aussi gros que Access parce qu'on estime que les utilisateurs, quand ils ont des besoins base de données limités, ils n'ont pas besoin de quelque chose aussi gros. Il existe d'autres logiciels base de données sur le marché qui sont tout à fait compétents quand il y a besoin de grosses fonctionnalités. Donc ce ne sera pas un Access-like, mais quelque chose qui permettra de faire des requêtes, des tables liées, des formulaires, tout ce dont un utilisateur a besoin pour des petites bases de données.
D'accord, merci Sophie et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Sophie Gauthier, responsable du côté francophone d'OpenOffice. L'adresse internet, c'est http://fr.openoffice avec deux f.org, fr.openoffice.org. À ce titre, on peut peut-être signaler la sortie de la réédition ou l'amélioration d'un bouquin qui
parlait de la deuxième édition donc de openoffice.org efficace. Donc paru dans la collection Accès libre de chez Erol, donc la deuxième édition est sortie il y a un mois ou deux.
Voilà un ouvrage qui explique de fond en comble et de façon très claire comment se servir de cette suite bureautique libre et fantastique.
Ah oui, moi j'ai lu la première édition, j'avoue que j'ai été complètement époustouflé par la clarté des propos des auteurs qui pensent en utilisateur, qui pense à la secrétaire ou au chef de service informatique d'une entreprise et qui montre tous les atouts dont dispose OpenOffice et comment passer d'une autre suite propriétaire à OpenOffice et d'y retrouver tous ces petits très rapidement. Mmh.
Alors, à Solution Linux, on croise aussi, oui, un...
Oui, je voulais préciser, notamment à propos des auteurs de cet ouvrage, Sophie Gauthier en fait partie. Et les trois autres sont également des acteurs majeurs d'OpenOffice francophone.
Très bien. À Solution Linux, on croise aussi, on pourrait ne pas s'y attendre, on croise aussi des gens qui sont préoccupés d'écologie, puisque eh ben, on connaît tous les problèmes générés par eh bien, les ordinateurs qui partent à la casse ou au rebut. Mais que dire des CD? Des CD qu'on consomme beaucoup. Nous qui faisons de la radio, ben, on en utilise des fois pour graver des choses qui ne vont servir qu'une fois ou deux fois. Donc, que faire de tous ces CD qui s'amoncellent et qui ne sont pour l'instant pas recyclés, alors qu'ils sont recyclables, puisque comme vous allez l'apprendre dans cette interview de Rodolphe Kideville, que tu as rencontré donc à Solution Linux, eh bien, il y a des solutions et on écoute cette interview tout de suite.
Bonjour Rodolphe Kideville, tu es ici pour représenter le projet Galette Verte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Bonjour Dimitri, donc la Galette Verte, c'est un projet de l'association Rhizome en fait. Donc l'association Rhizome, c'est un club d'utilisateurs de logiciels libres dans le Morbihan. L'idée de la galette verte, en fait, est partie d'un de nos besoins à nous, comme beaucoup d'associations, c'était un besoin de financement d'un projet. Ce projet, c'est de distribuer des CD de logiciels libres dans les médiathèques. C'est-à-dire que souvent, dans nos réunions, on rencontre des utilisateurs qui nous disent « Nous, on est intéressé par passer avec nous Linux, mais on ne sait pas où trouver des CD, comment est-ce qu'on fait pour en trouver ?» Donc nous, on s'est dit « L'idée idéale, ce serait de leur dire « Allez, dans la médiathèque du coin, on a déposé un CD pour ça. » On a beaucoup de mal à trouver des financements de la part des médiathèques, donc on est parti du principe que l'association donne ces CD-là. Pour qu'elle donne ces CD-là, il faut un financement pour les acheter et pour presser des distributions en fait de différents LUG qui font des projets comme Lollywin ou Lolica qui sont très intéressants, et c'est de les presser avec un boîtier et un manuel, enfin tout ce petit outil de présentation autour qui fait que le CD ne va pas dépareiller dans la pile. Quoi. Ça c'est vraiment, nous, c'est pas très important et c'est ce qui est retransmis par les médiathèques. On sait ici, on génère du CD, le meilleur moyen pour en générer, c'est d'en recycler. Et on va récupérer, on sait qu'il y a énormément de CD, je veux dire aujourd'hui, rien que sur la France, à peu près 2 300 000 CD qui sont générés, vendus tous les ans. Ça génère un volume qui est énorme en matière de déchets qui est juste brûlé, donc qui n'est pas valorisé. Et il y a des chaînes qui se mettent en place de recyclage, essentiellement aujourd'hui, donc tout ce qui est en Suisse ou en Allemagne. Par exemple, en Suisse, c'est intégré dans les réseaux de récupération des piles. En France, on a un réseau de récupération de piles, on n'a pas de réseau de récupération des CD. Donc nous, chez Rhizome, en fait, ce qu'on veut faire, c'est récupérer un maximum de CD, puisque les gens qui vont les recycler discutent à la tonne. Donc il nous faut une tonne de CD. Nous, on est incapable d'avoir une tonne de CD, nous. Donc c'est d'aller dans différentes boutiques qu'on a commencé à faire, donc au niveau de Lorient ou au niveau de Vannes, dans des magasins, dans des entreprises ou des institutions, mettre à disposition un réceptacle à CD et on récupère ce volume-là et on en fait un gros tas qu'après on va pouvoir effectivement recycler, revaloriser auprès d'industriels.
Effectivement, c'est une grande nouveauté en France. Ça n'existait pas avant le recyclage de CD, et surtout quand on voit rien qu'avec les logiciels libres, quand des associations gravent des logiciels libres, ils sont périmés des fois au bout de 6 mois parce que ça évolue très vite, et c'est vrai que le CD est un gros problème, quoi. Donc l'idée, c'est de créer une dynamique peut-être au niveau national.
Ouais, alors l'idéal, c'est effectivement, nous, une petite association, donc aujourd'hui on commence à avoir des demandes de gens, on a eu des demandes au niveau d'Amiens, au niveau de Lyon, au niveau de Toulouse, des gens qui nous disent, écoutez, nous on a des CD, quand est-ce que vous venez les chercher? Nous on ne peut pas se permettre de prendre la voiture et d'aller chercher les CD. Surtout qu'on ne veut pas non plus rentrer dans une dérive où on va générer énormément de déplacements et donc d'émissions de gaz carbonique pour recycler des CD, en fin de compte se retrouver dans un bilan écologique qui est négatif. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de gens qui vont relayer, qui vont s'intéresser à ce projet, qui vont relayer l'initiative, qui vont chacun dans leur coin entasser 100, 300, 400 CD. On peut tous entasser 400 CD chez soi. Et on va dire une fois par an, par exemple, on va tous aux rencontres mondiales. À ce moment-là, on va récupérer les CD de tous les autres gens qui vont récupérer les CD près de chez eux. L'idée, c'est vraiment d'avoir un réseau le plus étoilé, le plus éclaté possible pour qu'il y ait un minimum de coûts de récupération de ce CD à chaque fois.
Oui, parce qu'en fait, comment ça fonctionne? Où est-ce que sont recyclés ces CD? Tu as parlé de magasins qui récoltaient les CD, notamment sur Lorient, quoi. Après, comment ça marche derrière? Jusqu'où va la chaîne?
Alors après, c'est là effectivement, nous, notre rôle à Rhizome, on a fait des recherches là-dessus. Donc on a déjà identifié deux ou trois entreprises qui en France sont en train de mettre en place ce système de recyclage. C'est-à-dire qu'en Allemagne ça existe, et en Belgique aussi, c'est-à-dire il y a une usine, vous arrivez avec un camion plein de CD, ils vous achètent ce camion plein de CD, le broie et le recycle. Donc eux vont valoriser effectivement vraiment ce CD comme matière première. Nous, notre rôle à Rhizome aujourd'hui, ce serait effectivement de constituer ce stock énorme et après d'apporter ce stock, donc de le faire véhiculer jusqu'à une usine qui va récupérer cette matière première et la recycler.
Tu as parlé de points de réception de CD tout à l'heure du côté de Lorient. Est-ce qu'il y a moyen de faire d'autres points de réception ailleurs en France? Qui peut faire ça? Comment pratiquer?
Alors par rapport à ça, donc nous on a monté un site web qui s'appelle galette-verte.rhizome.org. Donc là sur ce site on met en place donc les outils de communication internes aux gens qui veulent s'associer au CD, donc avec des forums, des mailing lists, genre d'outils classiques dans le monde du livre, on va dire. Et en plus on a édité deux ou trois petites pochettes, c'est-à-dire que deux ou trois petites affiches au format A4. L'idée c'est que vous récupérez n'importe quel carton qui traîne, vous imprimez cette affiche A4, vous la mettez dessus, la déposer chez des gens qui seraient effectivement intéressés par une initiative et vous récolter ces CD. Tout le monde aujourd'hui peut devenir collecteur de CD et on encourage tout le monde à le faire pour effectivement disséminer partout en France ces petits réceptacles comme on voit aujourd'hui des réceptacles à pile. Après, comment faire, vous allez sur le site, vous affichez l'affiche, vous voulez en refaire une, vous en refaites une. On essaie d'apporter un petit peu de valeur ajoutée quand même pour initier la chose et amorcer la pompe, mais aujourd'hui c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut déposer son point. Après, une fois que vous aurez constitué votre stock de 300, 400, 1000 CD, moi ce que je propose c'est effectivement de donner rendez-vous à tous les Lucs de France lors des rencontres mondiales de Dijon. Nous, Rhizome, on vient avec une camionnette et on remène tous ces CD. Et le point que je voudrais ajouter là-dessus qui est effectivement important, c'est les CD sans les pochettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas et il n'y a rien qui est mis en place au niveau de la pochette tant cartonnée qui, à la limite, peut rentrer dans un flux de recyclage du carton. Mais tout ce qui est boîtier cristal n'est pas valorisable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aucune entreprise ne sait récupérer cette matière première pour la valoriser. Alors que le CD, c'est du polycarbonate, ça se valorise effectivement.
Et donc effectivement, faut bien dire aux gens de récolter que les CD tout seuls, sans aucune pochette, ni plastique, ni carton. Uniquement les CD. Donc on peut donner rendez-vous à tous ceux qui veulent se débarrasser de leurs CD. Donc c'est aux rencontres mondiales du logiciel libre à Dijon. C'est à partir du 6 juillet, il me semble.
Voilà, c'est effectivement du 5 au 9 juillet, donc à Dijon, à l'université de Dijon, où les gens de Rhizome seront là avec la camionnette de la galette.
Et pour plus de renseignements, donc allez sur le site de Galette Verte. Donc je répète, galette-verte.rhizome.org. Et merci bien Rodolphe.
Merci Dimitri.
Voilà, galette-verte.rhizome avec un S à la fin, rhizome.org. À présent, nous sommes en ligne.
Oui.
Voilà, nous sommes en ligne avec Frédéric Rénal.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à Frédéric. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui pourrait sembler à certaines personnes peut-être un petit peu complexe, mais en fin de compte, qui n'est pas autant que ça. C'est la dissimulation d'informations. Alors, la dissimulation d'informations informatiques, on connaît ça. On peut cacher en fait des textes dans des images. On appelle ça la stéganographie.
Tout à fait.
Mais il y en a aussi d'autres. Est-ce que tu pourrais nous en parler de quelques-unes?
En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça, parce que ça, comme tu le dis, c'est un moyen qui remonte même. Les Grecs faisaient ça en rasant la tête des esclaves, et puis ils tatouaient les messages dessus, ils laissaient repousser les cheveux, ils envoyaient l'esclave vers le roi qui allait bien, qui rasait de nouveau la tête de l'esclave pour lire le message. Bon, ça, on sait faire à peu près des choses équivalentes dans le monde informatique, avec des images, des fichiers audio, des fichiers vidéo. Mais ça va plus loin que ça. Là, c'est pour passer un message. Ça peut être aussi, par exemple, pour sortir d'un réseau, ce qu'on va appeler la plupart du temps un canal caché. Maintenant, la plupart des gens ont compris qu'il fallait mettre des firewalls, il y avait du filtrage un peu dans tous les sens, mais on peut utiliser des protocoles pour faire sortir des informations par les protocoles normaux. C'est ce qui se fait, par exemple, avec HTTP la plupart du temps. Il y a un petit outil qui s'appelle HTTP Tunnel, qui est très très pratique pour ça, ou un autre qui s'appelle SSL Tunnel. L'idée, c'est de faire passer n'importe quel type de protocole, n'importe quel type de message, en fait, dans le protocole qui est autorisé, le HTTP ou le SSL. Donc ça, c'est des fuites d'informations classiques, on va dire, contre lesquelles on peut difficilement faire quelque chose. mais on peut vouloir aussi protéger autre chose que de l'information, comme son identité. Donc ça, c'est les problèmes d'anonymisation. C'est par exemple ce qui se passe avec certains réseaux peer-to-peer, par exemple Freenet, ou des réseaux de remailers comme Mixmaster, ou pour faire des connexions réseau, un truc qui s'appelle Tor, qui est assez intelligent, enfin qui essaye d'être assez intelligent, et qui, en gros, vous permet de vous connecter n'importe où en étant anonyme.
D'accord.
Donc ça dépend un peu de ce qu'on veut protéger, mais il ne faut pas oublier qu'en sécurité, de toute façon, l'enjeu, c'est pas la sécurité, hein, c'est toujours l'information. Donc après, on cherche à la protéger par différents moyens.
En ce qui concerne le grand public, la dissimulation d'informations, ça touche quel type de fichier ou quel type d'application ?
Alors, c'est pas, a priori, le grand public n'a pas besoin, en tout cas en France, n'a pas besoin de ça. Il faut voir, comme toujours, quand est-ce, dans quelles circonstances on a besoin d'une technologie ou d'un concept. Maintenant, il y a des pays où le chiffrement est interdit, par exemple. Je pense à la Chine ou à certains pays du Moyen-Orient. On n'a pas le droit de chiffrer des données parce qu'on veut que, enfin, certains services veulent pouvoir y accéder. Dans ces pays-là, pour permettre quand même de communiquer de manière discrète, plutôt que de chiffrer ces informations, on va essayer de les cacher. Ça sert, par exemple, dans ce type de contexte-là.
Il y a quand même le grand public a peur de faire des achats sur Internet, par exemple, de transmettre des numéros de carte bleue et tout. Est-ce qu'il a aujourd'hui concrètement à se soucier de ça, de transférer des données confidentielles ?
Moi, personnellement, je fais régulièrement des achats sur Internet en partant de deux principes. C'est que ça passe par un certain nombre de sites qui sont relativement connus. Alors il faut faire attention qu'il y a bien du SSL, qu'il est bien valide, que les certificats qui sont présentés sont les bons. Maintenant, je le fais pratiquement jamais, ça, c'est mécanique, on va dire. Tout ça à cause du deuxième principe, qui est que même s'il y a un achat illégal qui est fait avec ma carte, les banques ont des obligations qui sont relativement fortes de remboursement. Il y a une assurance, en fait, qui est fournie avec la carte bleue, qui est fournie par les banques, qui permet d'avoir de passer outre ce type de préoccupation. Je pense que la fraude par achat sur Internet est moins préoccupante que la fraude à la carte bleue où il y a quelques jours encore, on a vu dans un grand restaurant à Paris, un garçon faisait des copies de la bande magnétique de la carte bleue et réutilisait ensuite cette bande magnétique sur des fausses cartes bleues.
Je pense que le risque
est plus élevé comme ça.
Il y a déjà quelque chose de facile à vérifier quand on fait des achats en ligne, c'est de vérifier que le protocole est bien HTTPS et non pas HTTP tout court, quoi.
Alors c'est pas toujours si facile que ça parce que beaucoup de serveurs cachent maintenant les formulaires sécurisés dans des pages web normales. Donc ça apparaît pas toujours forcément.
D'accord.
Je sais pas pourquoi, hein, c'est une nouvelle mode des web designers. Mais ça, j'ai remarqué ça sur certaines banques.
C'est pas très malin parce que ça pourrait justement mettre en confiance le client, le fait que...
Ça pourrait. Voilà. Ça pourrait, je suis entièrement d'accord.
Un conseil tout bête là par rapport à l'utilisateur moyen, vérifiez toujours, déjà ne transmettez jamais vos données quand on vous le demande par mail, parce que ça arrive fréquemment de recevoir des messages en disant il faut cliquer ici, etc. Et aussi vérifiez tout bêtement le nom de domaine, parce que des fois il y en a qui s'amusent à usurper un peu les noms de domaine en se faisant passer pour d'autres organisations.
Et même ça, c'est une très bonne recommandation qu'il faut faire, mais c'est pas forcément suffisant parce qu'il y a des attaques qui s'appellent le phishing, qui permettent de faire apparaître un nom de domaine, et en fait, les informations sont envoyées autre part.
D'ailleurs, on peut parler de Firefox qui permet de détecter
ce type de choses,
le phishing.
En fait, c'est surtout Internet Explorer qui souffre de ce défaut.
Je suis plutôt logiciel libre, mais pour le coup, Firefox, il y a eu aussi droit. Hein. Mais je suis d'accord, Internet Explorer plus régulièrement.
Ça a été corrigé dans Firefox.
Oui, dans Internet Explorer, je sais pas, je l'utilise pas.
Ça veut tout dire. En tout cas.
Bon, ok, c'est un peu de la mauvaise foi.
Oui. En tout cas, Frédéric, on te remercie pour cette intervention sur le fil.
Je vous en prie.
On te dit à dans deux mois et le prochain numéro de MISC sort au mois de mars.
Il sortira vers le 10 mars maintenant.
D'accord. Et il traitera de quel sujet ?
Je crois que tu allais le dire, non ? C'est la dissimulation d'information, un truc comme ça.
Merci à toi en tout cas.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Au revoir.
Voilà, donc c'est Frédéric Rénal qui nous a appelé in extremis pour cette 17e divergence numérique. On va bien à présent, il nous reste peu de temps, on va tout de suite enchaîner sur l'agenda. Je voudrais juste démarrer en rappelant que Albert et moi-même nous sommes rendus aux rencontres de l'économie solidaire et sociale de Châteauroux. Nous y avons été invités par l'association Après qui réside à l'IUT de Châteauroux, trois jours de conférences, de table ronde où plusieurs thèmes de l'économie solidaire et sociale ont été avancés, dont les logiciels libres, puisque la question était est-ce que les logiciels libres participent de l'économie solidaire et sociale. La réponse coule un petit peu de source, et on a été quand même assez surpris de voir, même si c'est vrai que Châteauroux c'est pas New York, hein, c'est plutôt le contraire, on a été quand même assez surpris de voir que finalement sur cette table ronde sur les logiciels libres, finalement les gens étaient relativement dans la méconnaissance des logiciels libres. On a même dû reprendre certains intervenants qui avaient tendance à dire oui, je vous donne une adresse pour aller télécharger des logiciels craqués. Alors le seul conseil qu'on a donné d'ailleurs aux gens qui étaient présents parmi le public, c'était d'arrêter, de ne plus jamais utiliser de logiciels craqués, car aujourd'hui c'est beaucoup plus risqué qu'hier, sachant aussi qu'un logiciel craqué finit par tomber en panne ou par ne pas offrir les services dont on attend de lui. Aujourd'hui, des solutions libres existent pour toutes les applications majeures, que ça soit la retouche d'image, de son, le traitement de texte, la suite bureautique, etc., les bases de données et compagnie. Donc ça ne sert plus à rien de tricher. Il faut aller dans le libre et dans la licité.
Et un bon point d'entrée pour justement entrer dans ce monde du libre est le site Framasoft. Donc c'est Framasoft, framasoft.net,
voilà,
qui est un annuaire de logiciels libres qui fonctionne aussi bien sous Windows que sous Linux, enfin majoritairement sous Windows. Et vous trouverez votre bonheur sur ce site, c'est obligé.
Voilà, on trouve même maintenant des logiciels sous Mac OS 10, ça commence.
Et je remercie personnellement les gens de Châteauroux qui nous ont accueillis, fort bien accueillis, et qui étaient ravis que nous ayons fait le déplacement jusqu'à là-bas, ce qui était un petit peu improvisé et pas simple.
On aura d'ailleurs des reportages à diffuser dès le mois prochain.
Voilà, nous aurons aussi donc quelques petites interviews. On peut peut-être démarrer cet agenda du libre par le 19 mars, même si après on va parler du 16. Le 19 mars, Anthony, tu animeras à l'ECM Diago Kawenga une séance autour de SPIP.
Oui, en fait, le mois dernier, on avait déjà fait une expérience et ça s'est plutôt bien passé. C'est un samedi, ce qu'on appelle les samedis numériques à l'ECM Kawenga. J'y travaille plus officiellement, mais je travaille toujours de temps en temps pour eux. Donc, c'est une journée consacrée à SPIP pour les débutants. Il faut avoir un minimum de compétences informatiques, un minimum, c'est-à-dire savoir manier une souris, déplacer des fichiers sur un ordinateur, etc. Et après, on part du téléchargement de SPIP à l'installation proprement dite, la configuration de base, et puis apprendre aux gens le système de poster des articles, mettre dans des rubriques, etc. Alors, c'est pas gratuit, c'est 60€ en tarif plein et 40€ en tarif réduit. 40€, ça s'adresse aux chômeurs, aux étudiants. C'est une journée complète, 7 heures de formation. Voilà, c'est les samedis numériques. Ça va se représenter, donc la prochaine, c'est le samedi 19 mars. En avril, il y aura un atelier pour l'installation de Linux, sur une journée aussi, toujours accès grand public. Voilà, si vous voulez plus d'informations, par contre, je vous conseille d'appeler le CM Kawang. Je donne le numéro, le 04 67 06 51 66 ou ecmkawanga.com.
Dimitri, à présent, on part à Metz pour le 16 mars.
Oui, donc effectivement, à Metz, le 16 mars, il y aura une journée de présentation de logiciels libres au public. Ça se passe à l'IUT de Metz. C'est organisé par le GRAULUG, donc qui est le LUG local, donc GRAULUG.org. Et notamment autour de cette période, il y aura des manifestations dans le cadre de Libre en Fête. Alors qu'est-ce que c'est Libre en Fête ? C'est un peu le contre-pied de la fête de l'Internet, qui, comme vous le savez, existe depuis 1998, qui a dévié un peu vers le commercial. Donc il y a eu un genre de contre-mouvement dans le but de promouvoir le libre. Et l'idée, c'est de présenter des logiciels libres n'importe où. Ça peut être dans des supermarchés, ça peut être dans des lieux plus conventionnels comme une IUT. Et donc, vous trouverez toutes les manifestations sur le site libre-en, donc EN-fête.org. www.rhizome.net. Les mercredis 16 et 17 mars, donc là je m'adresse surtout aux gens qui travaillent dans l'éducation, donc que vous soyez enseignant, que vous soyez décideur, que vous soyez élu. Donc le mercredi 16 et 17 mars auront lieu les 10e rencontres de l'Observatoire des ressources multimédia en éducation, l'ORME. Ça se passe à Marseille, au Palais du Pharo. C'est une mission nationale du CRDP de l'Académie d'Aix-Marseille. Donc pour plus d'informations, orme-multimédia.org. Ensuite, nous avons souvent parlé du Centre de ressources informatiques de Haute-Savoie dans cette émission. Et il faut savoir que tous les mois, ils organisent des séminaires. Donc c'est une demi-journée, généralement le dernier mercredi du mois. Sur un thème. Donc au mois de mars, ça sera le séminaire portera sur publier sur internet simple comme un CMS. Alors un CMS, c'est un outil de publication en ligne comme SPIP par exemple. Donc ça parlera de SPIP, de blog. Donc c'est le mercredi 30 mars de 14h à 17h et vous trouverez des informations sur cri74.org. Je peux vous donner déjà la date du suivant, donc le mercredi 13 avril, alors ce n'est pas le dernier mercredi du mois, vacances oblige, donc ce sera le 13 avril et le sujet portera sur Firefox et ses extensions, donc toujours pareil, de 14h à 17h, et je précise que ça aura lieu à Archamps, en Haute-Savoie. Archamps, c'est juste à côté de Genève. Et on va terminer par Game Over, donc le salon du jeu vidéo sur plateforme libre, qui aura lieu le 1er et le 2 avril. Ce n'est pas une blague, ça aura bien lieu le 1er avril. C'est à Limoges, donc pour la deuxième édition. Et il y aura une LAN party, il y aura des conférences sur les jeux vidéo, sur donc la programmation de jeux vidéo. Il y aura aussi des conférences plus orientées graphisme, d'autres plus orientées musique. Pour noter aussi la participation de Dominique Godon qui viendra présenter les Creative Commons et avec son groupe, il sera là donc le samedi au soir, le samedi 2 avril pour un concert de musique libre. Comme libre ne rime pas avec gratuit, l'entrée de ce concert vous coûtera 3 €. C'est une somme modique pour soutenir la musique libre. Donc plus de renseignements sur game, donc game-over over.eu.org.
Très bien Dimitri, merci pour cet agenda. On va se quitter là parce que on est super super serré. On s'auto-congratule Jean-Claude, Dimitri, Albert et Anthony, ainsi que moi-même. Je remercie Caroline Novara pour la réalisation technique de cette 17e divergence numérique. On se quitte avec Le Tigre, extrait donc de la compilation Wired que vous pouvez retrouver sur wired.com. Et puis on se retrouve bien le mois prochain. En attendant, libérez-vous et soyez braves.
Digiprince FM.